Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
Il y a quelques jours, vous avez assisté à la session de Radio Présence. Alors tous les salariés et les bénévoles se sont rassemblés au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes pour une journée de prière, de travail, de convivialité. C'est vous qui avez ouvert le bal, si je puis dire, avec une intervention sur l'identité chrétienne de notre radio. Et en vous écoutant, je me suis dit que c'était peut-être sympathique d'en faire profiter les auditeurs. Avant de parler de l'identité chrétienne de Radio Présence, peut-être qu'on peut expliquer ce que c'est que l'identité chrétienne, tout simplement.
Oui, j'ai trouvé que c'était une bonne question, en effet, quand j'ai réfléchi à ce que je dirais à ce séminaire provincial, puisqu'étaient présents, en effet, les salariés et les bénévoles des 5 antennes de radio, du réseau Radio Présence, 2 dans l'Hôte, 2 dans la Haute-Garonne, et puis notre radio ici, à Tarbes et Lourdes. Et donc, je me suis dit, c'est vraiment une bonne question, une question qui déborde le monde de la radio. Qu'est-ce que c'est qu'une radio chrétienne? Et notamment, cette année, j'ai été pas mal sollicité, ou en tout cas interpellé par cette question à propos de l'école catholique. Qu'est-ce que c'est qu'une école catholique? Alors, il y a toutes les mises en cause, toutes les questions qui tournent en France depuis des mois autour de l'école catholique et de son statut. Et dans le langage de l'école catholique, ça s'appelle « qu'est-ce que c'est que le caractère propre d'une école catholique ?» Chez nous, à Tarbes, dans le diocèse, il y a des familles qui trouvent qu'une école dite catholique n'est pas assez, et d'autres qui sont extrêmement attentifs à ce que l'école même catholique ne le soit pas trop. Et donc, c'est une vraie question. Une vraie question, et même chose pour la radio. Je me souviens, lorsque la radio Présence s'est installée au séminaire de Toulouse en 98 ou 99, quelque chose comme ça, elle prenait le relais des radios libres qui étaient nées après mai 81, et qui étaient des radios très très libres, y compris montées avec des bouts de ficelle par tel curé de Toulouse, qui émettait depuis le clocher de son église.
Oui. Bon,
là, ça devenait beaucoup plus professionnel, et je sentais bien, d'après ce que j'entendais, qu'il y avait un recentrage sur l'identité chrétienne des radios, en partie subventionnées par les diocèses, notamment. Mmh. Et avec tout un débat, est-ce qu'une radio chrétienne, c'est le porte-parole de l'évêque, ou bien est-ce qu'elle a une certaine autonomie éditoriale, une radio faite par des chrétiens, mais est-ce qu'elle doit être une radio de cathos pour des cathos, avec des émissions exclusivement religieuses, spirituelles, etc., etc., ou bien une radio faite par des chrétiens, mais sur un style plus ouvert, plus généraliste, on va dire. Voilà, il y a toutes ces questions derrière ce titre de l'identité chrétienne de la radio. Alors c'est une vraie question sur laquelle, lorsqu'on ouvre le débat dans nos diocèses entre évêques ou même entre acteurs de la radio ou des radios, eh bien les points de vue s'expriment, tout ça. Pour répondre, j'ai fait référence à un séminaire que la tutelle diocésaine de l'enseignement catholique avait vécu à l'abbaye de Tournai, et on avait répondu précisément à cette question pour les établissements de l'enseignement catholique. Ça veut dire quoi, l'identité catholique d'une école? Et on avait planché là-dessus pendant 24 heures avec les chefs d'établissement de la tutelle diocésaine pour aboutir à une définition où chaque mot est pesé, etc., etc. Donc j'ai proposé cette définition et j'en ai fait ensuite un commentaire en l'appliquant à la radio. En gros, l'idée, c'est de dire qu'il y a une manière chrétienne qui est fondée dans la foi de comprendre le monde, l'histoire du monde, le rapport de l'Église à la société, la place que les chrétiens ont dans la société. La semaine dernière, on parlait de l'engagement des chrétiens éventuellement en politique, ou ce que les chrétiens peuvent apporter dans un engagement en politique. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une manière chrétienne d'être en relation avec le monde, et une radio chrétienne, elle assume ce regard-là, fondé dans la foi, sur ce qui se passe, sur l'actualité, sur les événements, sur un projet de loi, elle assume ça. Mais elle est une radio, comme l'école, qui est faite pour tous. Pour tous. C'est pas seulement les cathos s'adressent aux cathos, et aux seuls cathos. C'est une radio qui traite l'actualité du monde, qui traite des sujets de société, etc., etc. À la manière chrétienne, mais qui peut être audible par tous, qui savent qu'ils sont en train d'écouter une radio d'inspiration chrétienne, ou une radio chrétienne, parce que là aussi il peut y avoir une ambiguïté si on se contente de dire d'inspiration chrétienne, mais une radio qui assume ce fondement dans la foi, et donc ce que la foi donne de comprendre de l'histoire, etc., mais qui s'adresse absolument à tous, et qui écoute tous, qui donne la parole à tous, qui suscite des débats avec tous, etc., etc.
Vous parlez de l'identité chrétienne, alors de manière assez large, vous avez mentionné l'identité chrétienne par exemple en politique. Je voudrais juste qu'on fasse un petit focus là-dessus, parce que l'identité chrétienne, notamment en politique, ça peut être un terrain un peu glissant quand même, où on peut très vite être targué d'extrémistes ou de glisser. Je pense par exemple au débat qu'on a parfois entendu sur les racines chrétiennes de l'Europe, cette identité chrétienne de l'Europe, rien que le mot fait bondir certains, et certains chrétiens.
Oui, et je peux comprendre ça, parce que... On parle d'identité chrétienne pour des personnes ou pour une radio qui s'affiche comme qui est subventionnée, qui est par les chrétiens, par ses auditeurs plus largement, et tous ne sont pas nécessairement chrétiens, mais quand même l'essentiel des structures donc elle est quand même portée par nos diocèses et par les chrétiens de nos diocèses comme un outil de relation, d'information, de réflexion qui est mis à la disposition de tous, et d'évangélisation aussi, de proposition de la manière chrétienne d'appréhender la vie et de l'appréhender avec le regard braqué, porté par une certaine espérance qui est l'espérance des chrétiens. Voilà. Et ça colore vraiment, ça marque, enfin c'est plus que coloré, c'est le code génétique de la radio.
C'est l'évangile, le code génétique.
Mais il y a une manière pour les chrétiens d'être en relation avec les autres. Donc l'identité chrétienne de la radio, elle ressemble totalement à l'identité chrétienne des personnes baptisés, qui se situent dans leur relation à la société et au monde. L'identité chrétienne de la France, d'un pays ou d'un continent, ça c'est une question beaucoup, beaucoup plus large, puisque il faut distinguer l'identité chrétienne de la chrétienté, d'un régime de société qui serait régi exclusivement par les lois conformes à l'Évangile. Ça, c'est un régime de chrétienté, et lesquels régimes se donneraient les moyens d'imposer cette loi absolument à tous, y compris par la contrainte, puisque ce serait la loi du pays, etc. Donc c'est un régime de chrétienté. On n'est pas en train de rêver d'un tel régime, c'est pas la vision chrétienne de la présence des chrétiens dans le monde. Donc la radio, comme les personnes, assume une identité chrétienne dans une société qui est beaucoup plus large que seulement les chrétiens. Mais en disant cela, je reprends à mon compte la petite formule théologique ou la grande formule théologique de Saint-Cyprien de Carthage qui disait « Hors de l'Église, point de salut ». Mmh. Hors de l'Église, point de salut, en effet. Mais le salut, il est porté par l'Église, sacrement du Christ, au service de tous. Tous sont sauvés par le Christ et l'Église qui en est le sacrement. C'est pas seulement les membres de l'Église qui sont sauvés, mais il faut l'Église pour que tous le soient. C'est quand même une petite nuance qui a son importance.
Alors c'est une nuance qui me permet de faire une transition assez sympathique vers le deuxième sujet, puisque c'est quand même assez lié. C'est la réorganisation du diocèse, notamment sur trois pôles, l'annonce, la diaconie, la formation. C'est un espèce de trinôme qui vient de voir le jour début septembre dans notre diocèse, finalement un petit peu au service de tout ce que vous venez de nous expliquer. Pourquoi c'était important pour vous de lancer ce trinôme-là en même temps, annonce, diaconie, formation?
C'est une réorganisation de la conception classique, habituelle, que l'on avait depuis plusieurs décennies, des services, de ce qu'on appelle les services diocésains. Le service diocésain, c'est le service de la pastorale des jeunes, c'est le service de la catéchèse, c'est le service du catéchuménat pour les adultes, c'est le service des vocations, c'est le service de la pastorale des familles, c'est le service de la préparation au mariage, c'est le service de l'exorcisme, c'est le service de la pastorale des pauvres, Quand je suis arrivé dans l'annuaire du diocèse, que j'ai compulsé, il y avait comme ça une trentaine ou une quarantaine de services diocésains, anciens, mais qui en réalité n'existaient plus, pour un grand nombre d'entre eux, pour la simple et bonne raison que la personne qui a porté la responsabilité n'a pas pu être remplacée, que le prêtre qui en était le responsable n'a pas pu être remplacé, on n'a pas trouvé de successeur. Donc le nom du service continue d'exister dans l'annuaire, mais faute de personnes pour remplacer ceux qui les faisaient vivre, eh ben, de fait, le service n'existe plus. Mmh. De fait, mmh. il existe sur le papier, mais en réalité, il n'existe plus. Mmh. Donc, dans le diocèse, pas de pastoral des familles, pas de pastoral des vocations, pas de pastoral de ceci ou de cela. Enfin, il y a plein d'attentions pastorales qui ne sont pas honorées parce que l'organisation ancienne n'a pas pu continuer.
Mmh. Ou c'était honoré ici et là par des
Honoré dans des paroisses, ouais. mais pas au niveau diocésain. Ouais. Moyennant quoi, des propositions d'ordre national, provincial ou autre, des courriers, des supports, des formations qui sont proposées, etc., etc., ne sont pas relayées parce qu'il n'y a personne pour le faire. Mmh. Voilà. Il n'y a personne pour coordonner ceux qui, dans les différentes paroisses, s'occupent de la préparation au mariage, pour proposer une formation, pour qu'ils puissent dire leurs expériences, mettre. Mmh. Personne ne se sent autorisé à organiser une réunion de ce genre parce qu'il n'y a pas de service diocésain pour le porter. Bien. Donc, à partir de ce constat, il faut réorganiser les choses. Et on a décidé, après bien des échanges, des réflexions, avec beaucoup de conseils, on a décidé d'intégrer toutes ces attentions pastorales portées autrefois par les services diocésains, dans trois pôles de services, dans trois services. Un qui s'appelle l'annonce de la foi, un qui s'appelle le service, la diaconie, le service du frère, et un qui s'appelle formation et vie chrétienne. Bien. Chacun de ces services va regrouper chacun de ces pôles, chacun de ces têtes de chapitre, en quelque sorte, va regrouper les anciens services. Par exemple, le service annonce de la foi va regrouper la catéchèse, le catéchuménat, la pastorale des familles, la pastorale des vocations, etc. Même chose pour le service du frère, qui va regrouper, déjà identifier, faire un annuaire de tous les groupes magnifiques qui existent dans quantité d'endroits, de toutes les personnes, et pouvoir les mettre en relation, diffuser cet annuaire. Je me souviens d'une réunion qu'il y a eu ici à la Maison Saint-Paul, quand je suis arrivé, où j'ai souhaité rencontrer tous les mouvements et associations de fidèles. Parmi tous ces mouvements, il y en avait trois qui se référaient à Saint-Vincent-de-Paul et qui ne connaissaient pas l'existence des autres. Mais quand même, enfin.
Donc la diaconie, voilà. Ça va des équipes Saint-Vincent à Nkaza en passant par le service évangélique des malades, par exemple.
Oui, puis les aumôneries d'hôpital, voilà. De prison, le service évangélique des malades, en effet, et toute cette attention à nos frères, les plus pauvres, mais non seulement une attention qui prend soin d'eux, mais une attention qui tient compte de ce que eux ont à nous dire aussi de la part du Seigneur. Mmh. Et ça, les rassemblements tels que Diaconia à Lourdes il y a longtemps, et puis le printemps de la Diaconie à Toulouse il y a 2 ans et demi, nous ont sensibilisés à cela. Et puis le dernier pôle là sur la formation et vie chrétienne, eh bien c'est relancer un service de la formation qui est réclamé à corps et à cri dans toutes les visites pastorales, dans tous les rassemblements diocésains. Il faut qu'il y ait une proposition de formation.
Mmh. Ça vous a été beaucoup demandé pendant les visites
pastorales. Beaucoup. De 2 ou 3 types. C'est-à-dire, il faut à la fois une formation généraliste pour des chrétiens qui veulent se former dans leur foi. Une formation sur les fondements de la foi, etc. Donc, une formation généraliste, un catéchisme pour adultes approfondi, complètement gratuit, par intérêt des personnes qui participent. Et puis, des formations beaucoup plus ciblées en fonction des missions. Par exemple, est réclamée très fortement dans la nouvelle réorganisation des paroisses, une formation pour les personnes qui vont être associées à la pastorale des funérailles,
par exemple.
Voilà, il faut une formation des acteurs en liturgie. Il faut une formation. Bon. Donc des formations plus ciblées. Donc ce sera porté par ce troisième pôle de service. Mais de même, le cœur diocésain, de même, je veux réactiver un service qui n'existe pas, qui est celui de la pastorale sacramentelle et liturgique, pour provoquer une réflexion et pouvoir m'aider à formuler des orientations pastorales pour la pastorale de la confirmation, pour. Voilà, au niveau du diocèse. Et il faut que ça soit porté par des gens. L'intérêt de ces trois services, c'est que toutes ces attentions pastorales-là, désormais, seront honorées non pas par un service qui est sur un rail et qui ne s'occupe que de son affaire, mais par un groupe de personnes qui ont une attention à tous même si ensuite, au sein de l'équipe, ils vont se répartir des suivis plus ciblés. Mais au moins, l'ambition, c'est que ça puisse faire exister réellement au niveau du diocèse. Encore une fois, ça existe au niveau de certaines paroisses. Mais au niveau du diocèse, des attentions pastorales qui, aujourd'hui, ne sont pas honorées.
Alors, on a pu connaître des périodes où on inventait des services pour la mission. Là, ce que je comprends à travers ce que vous dites, Monseigneur, c'est que tout cela, c'est la mission. Tous ces services, toutes ces personnes qui sont investies là-dedans sont toutes ensemble au service de la mission.
Tout est dans tout. Le service annonce de la foi incarne tout ce qui est concrètement catéchèse, annonce explicite, pastorale des jeunes, des adolescents, des jeunes professionnels, des adultes, enfin tout ce qu'on veut. C'est l'annonce de la foi. Mais l'annonce de la foi, elle fait partie de l'identité chrétienne. L'Église est faite pour évangéliser. Oui. Donc, qui est l'objet du troisième pôle sur la formation. Il faut former les chrétiens à se saisir de l'identité de l'Église qui est faite pour évangéliser, disait Paul VI. Bon. Mais c'est, après, dans le concret, c'est porté par un pôle explicite. De même, la pastorale du frère, diaconie et service du frère, bien ça aussi, c'est l'identité profonde de l'Église. Et c'est une autre manière d'être attentif à nos frères les plus vulnérables, les plus pauvres, quels qu'ils soient, y compris la protection contre les abus, etc., que l'on signe que l'on est vraiment l'Église du Christ. Donc, tout est dans tout, quoi. Chacun est concerné par les attentions des autres pôles.
Merci beaucoup, Mgr Mika. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel entretien.
Avec plaisir. Bonne semaine à tous.